Alors, l'islam, loin d'éliminer ces traditions au sens ethnologique, c'est-à-dire des traditions séculaires, millénaires, bien antérieures à l'intervention de la tradition musulmane au sens que j'ai défini, au contraire, est venu sacraliser ces coutumes anciennes, leur donner une dimension sacrée qui renforce l'attachement des populations à la répétition de ces traditions. Ça, c'est une dimension extrêmement importante. Et si je signale cela, c'est parce que quand on parle de la condition de la femme en islam, on réfère toujours à l'islam pour expliquer l'état d'infériorité évident de la femme dans les sociétés musulmanes. Mais il n'est pas correct de présenter les choses ainsi. Parce qu'en réalité, le statut de la femme dans les sociétés musulmanes est lié au traitement de la sexualité dans les sociétés les plus anciennes. C'est au niveau de la tradition archaïque qu'il faut commencer à réfléchir pour comprendre le rôle de la sexualité comme voie de partage des pouvoirs et des fonctions, comme voie de distribution des pouvoirs et des valeurs dans les sociétés archaïques anciennes. C'est à ce niveau-là qu'il faut commencer à réfléchir avant de faire intervenir la tradition musulmane. La tradition musulmane intervient bien sûr, mais elle est intervenue en un moment où il n'était pas possible d'apercevoir ce niveau profond de la tradition comme nous le faisons aujourd'hui, et où la confusion s'est faite spontanément entre les deux niveaux de la tradition, et l'islam a consacré au sens étymologique, sacralisé des pratiques bien antérieures qui sont devenues des pratiques religieuses islamiques, entre guillemets, dans la conscience de ceux que l'on appelle les musulmans. Vous voyez comment j'hésite à dire les musulmans après ce que je viens de dire. Parce qu'on n'a pas le droit, normalement. On n'a pas le droit. Voilà un exemple absolument décisif où une pensée moderne, critique, qui va au fond des choses, ne répète pas les lieux communs polémiques au sujet de l'infériorité des femmes dans la société musulmane. Non. Les femmes sont inférieures, elles ont un statut effectivement qu'il faut espérer pouvoir changer très vite, mais les raisons de cela sont beaucoup plus profondes et beaucoup plus anciennes, et il est beaucoup plus difficile d'agir sur ces points-là parce que, encore une fois, c'est une sédimentation millénaire des représentations qui structure l'imaginaire fondamental, l'imaginaire radical, comme vous dites, n'est-ce pas, les psychanalystes, l'imaginaire radical des sociétés. L'imaginaire radical des sociétés. Et c'est au niveau de l'imaginaire radical des sociétés qu'il faut porter l'analyse. Bien. Un dernier mot sur la tradition. J'ai écrit tout un... J'y renverrai quelque part, je l'ai écrit ici. J'ai écrit une longue étude sur la tradition. Voilà. Une longue étude sur l'islam, ça s'appelle l'islam actuel devant. J'arrête de deux secondes. Pour avoir la
question numéro 7. La tradition est-elle définitivement fixée par les textes ou bien peut-on innover? Peut-on innover?
Oui. Question très pertinente qui pose le problème de l'innovation. En islam. L'innovation en islam, comme dans toute tradition religieuse, représente un point extrêmement important qui organise l'ensemble de la vision, je dirais, du monde et de l'attitude devant la connaissance qui se développe à l'intérieur d'une tradition religieuse. Le mot innovation en arabe se dit bida. Je cite le nom arabe parce qu'il faut connaître le nom arabe. Voici un exemple où les connotations qui s'attachent à un nom créent immédiatement une telle perception d'une réalité globale que la pensée est obligée de s'arrêter. Et ça devient un véritable obstacle. Le mot bid'a en arabe évoque immédiatement le danger, le péril, l'œuvre de Satan qui vous écarte de la voie de Dieu. La bid'a est à éviter à tout prix. La bid'a, l'innovation, est à éviter à tout prix. Elle est identifiée à l'intervention du diable pour arrêter le développement du dessein de Dieu. Ça va jusque là. C'est en langage symbolique religieux, n'est-ce pas, avec toute la symbolique du diable. Le diable, c'est un personnage extrêmement fécond, je dirais, dans la vie religieuse, dans la pratique religieuse et la perception religieuse. Toute la pensée islamique, dès ses débuts, a mené une lutte constante contre ce qu'elle a appelé l'innovation. Et il y a une littérature très abondante qui traite justement des conditions une pratique nouvelle, pour être reçue à l'intérieur de la communauté, doit être intégrée dans la tradition selon des procédures exégétiques et des procédures de légitimation théologique ou juridique qui sont extrêmement rigoureuses, fixées dans les livres. Et si cette intégration n'est pas possible, la pratique est rejetée. Donc nous voyons ici un système de contrôle à la fois idéologique et sémantique de tout ce qui se passe dans la société par les principes d'explication des textes sacrés, les principes exégétiques tels que nous les avons énoncés plus haut, et les stratégies d'intégration des situations nouvelles qu'impose l'histoire à l'intérieur de ce qui est considéré comme la tradition, à la fois religieuse au sens de la parole de Dieu dans le Coran et de la tradition prophétique telle que elle est présentée dans les corpus de tradition, comme je l'ai dit tout à l'heure. Pour vous donner des exemples, lorsque, par exemple, on a introduit le téléphone ou la radio pour la première fois dans les sociétés musulmanes, le premier réflexe des docteurs de la loi, c'est de se demander si cet instrument nouveau peut être sans danger introduit dans la vie quotidienne des musulmans. Autrement dit, si l'introduction du téléphone ou de la radio va perturber au point de la compromettre la tradition, donc l'attachement à toutes les valeurs que représente cette tradition, ou si au contraire elle peut fonctionner sans porter atteinte à la tradition, ou même si elle peut fonctionner en permettant de révéler de nouveaux côtés positifs de la tradition. Voilà comment chaque phénomène est abordé. De la même façon, lorsque on parle aujourd'hui de l'émancipation des femmes, est-ce qu'il faut permettre aux femmes de travailler dans la société, de sortir librement dans la rue, etc.? Ce sont là des choses qui sont perçues comme des innovations dans la pratique traditionnelle. Et elles sont soumises, par conséquent, à l'intervention exégétique des gestionnaires du sacré, des gestionnaires du bien religieux, car la tradition, c'est le capital symbolique gérée par des spécialistes et non pas par tout le monde. Et ces spécialistes-là vont gérer ce capital symbolique non pas en fonction d'une approche scientifique, objective, intellectuelle, de ce que peut représenter la fonction symbolique telle que je l'ai définie, mais en fonction des intérêts d'un groupe social donné, engagé dans la défense d'un ordre politique, d'un ordre juridique, soutenu lui-même par un ordre qualifié de moral et de religieux, soutenu par un ordre qualifié d'un ordre éthique ou religieux. J'insiste sur ma formulation.
Ça souligne.
Ah oui, absolument.
Avec un en
marche. Ah oui, 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 absolument. Donc cette question de l'innovation est tout à fait centrale. Vous voyez, nous sautons de la tradition à l'innovation. Mais l'innovation, c'est la stratégie de contrôle idéologique du groupe qui s'arroge le monopole du contrôle de la religion, c'est-à-dire du contrôle des valeurs entre guillemets, qui sont censées fonder l'ordre juridique qui lui-même renvoie à un ordre sémantique qui est géré par ses spécialistes. La chose n'est pas vue ainsi par les sujets du droit et les sujets de la tradition. C'est l'analyste qui peut voir les choses dans leur nudité idéologique, comme j'essaye de les présenter. Et ce qui nous fait mal dans les sociétés musulmanes contemporaines, c'est que même les intellectuels qui fonctionnent dans nos sociétés ne parviennent pas à dénuder de la sorte ce que l'on nomme la tradition religieuse, ce que l'on nomme les valeurs religieuses. Quand je dis « valeurs » entre guillemets, je pense à la critique radicale, pour la première fois, faite par Nietzsche de la généalogie de la morale, à l'intérieur de la pensée chrétienne et de la pensée grecque. Nietzsche n'est pas encore intervenu dans la reprise critique de la tradition musulmane. Et Nietzsche, s'il apparaissait aujourd'hui, serait reçu comme Nietzsche a été reçu par la pensée chrétienne au moment, et continue d'être reçu d'ailleurs dans pas mal de milieux. Maintenant, on le considère, les philosophes quand même l'ont adopté, mais la pensée théologique de ceux qui veillent à l'orthodoxie de la tradition vivante, comme je l'ai dit, les gestionnaires qui ont le monopole de la sauvegarde de cette orthodoxie ne considèrent pas encore la pensée de Nietzsche dans sa positivité et dans sa nécessité pour faire la critique des valeurs et dénuder des mécanismes sociaux de production du sens, des mécanismes sociaux de production d'un ordre juridique fondé sur un soi-disant ordre éthique ou religieux, ou même philosophique dans le cadre de pensée laïque, scientifique, qui est le nôtre dans les sociétés occidentales évoluées. Car il faut généraliser le problème de la gestion des biens symboliques dans une société. Il n'y a pas que les imams et les rabbins et les évêques. Il y a les évêques laïcs, enfin les grands administrateurs, les polytechniciens, les énarques, ceux qui ont aussi le privilège de gérer la chose à l'intérieur de nos sociétés laïques. C'est encore un niveau anthropologique de l'analyse de la notion de tradition et d'innovation.
Non, c'est clair. Ça va devenir un morceau sacré.
Mais oui,
Ça, j'ai eu la même réaction que Daniel, je pensais la même chose.
Oui, oui, mais parce que cette question d'innovation me tient beaucoup à cœur. Vous savez, moi j'ai grandi dans une société algérienne où ce contrôle dont je parle s'est exercé dans le quotidien de ma vie. Et j'ai émergé progressivement et difficilement à cette vision qui me permet, comme je dis, de détecter ce qui était tellement habillé des oripeaux les plus vieux et les plus trompeurs de la pratique idéologique des sociétés. Et je suis encore plus heureux lorsque je peux détecter la pensée moderne et le régime moderne et l'institution démocratique qui joue avec de soi-disant fonctions symboliques qu'elle nous a à considérer au vrai niveau de la fonction symbolique. C'est encore pire, car dans la fonction prophétique, il y a au moins un échange véritable au niveau du symbole qui soulève l'attachement au sens. Tandis que dans la pratique démocratique que nous connaissons, ça me semble tellement dérisoire. Et les fils sont tellement gros que la fonction symbolique ne marche pas. D'abord, il y a toute la dimension poétique qui disparaît. Il n'y a plus de poésie. Or, dans l'ancien temps, il y avait beaucoup de poésie. Il y avait une effervescence considérable. Par exemple, dans mon Algérie natale, il y avait des moments de célébration, les grandes fêtes célébrées collectivement, il y avait un tel chatoiement, telle exubérance de couleurs, de manifestations, de mots, de musique, de danse, de nourriture, enfin tout un ensemble, un univers sémiologique d'une exubérance extraordinaire et qui porte en soi une valeur esthétique qui a un rôle compensateur aux rôles idéologiques que je viens de décrire et qui existent en même temps. Mais il y a une sorte de compensation par l'enchantement, une compensation qui permet de supporter les effets néfastes de ce fonctionnement vis-à-vis du contrôle de la bid'a ou du contrôle de la tradition. Tandis que actuellement, il n'y a même plus cette compensation par la poésie et par l'enchantement. Il y a le désenchantement.
C'est la fonction tragique.
Le tragique, c'est différent. Le désenchantement touche surtout le côté de l'émerveillement. Et l'émerveillement touche à la capacité d'émotion esthétique provoquée par une manifestation authentiquement artistique ou par le sentiment d'être envahi brusquement par quelque chose de très signifiant, de très riche.
Question numéro 8, la fonction sacerdotale. Qui est prêtre et quelle est sa fonction ?
Alors, il faut peut-être rappeler que le sacerdoce désigne le pouvoir d'offrir des victimes à Dieu chez les Juifs. À l'origine, c'est cela, le sacerdoce. Et également, en contexte polythéiste, chez les Romains par exemple, c'était la charge occupée par des spécialistes, donc là aussi, d'offrir des sacrifices aux dieux. Autrement dit, nous sommes ici dans un contexte religieux où le sacré fonctionne à travers une pratique qui est appelée le sacrifice, et le sacrifice sert à mettre en relation des fidèles avec des divinités ou une divinité. Et c'est par extension, donc, à partir de cette fonction de médiateur pour mettre les fidèles ou les croyants en contact avec une divinité, c'est par extension que dans le christianisme, les prêtres exercent une fonction sacerdotale, beaucoup plus générale et plus abstraite, encore que le prêtre qui dit la messe opère un sacrifice, chaque fois, ce qui rappelle la fonction, donc, de sacrifier quelque chose, une victime, pour se rapprocher de Dieu, entrer en contact avec Dieu. Donc ici, dans le sacerdoce, l'idée à retenir, c'est la médiation nécessaire. On recourt à des spécialistes de cette médiation pour établir un contact entre la généralité des fidèles et Dieu. La fonction ainsi définie n'existe pas en islam. En islam, chaque fidèle a la possibilité théorique d'entrer directement en relation avec Dieu. Par exemple, lorsqu'on fait le sacrifice du mouton, c'est généralement un mouton, mais enfin ça peut être une autre bête, pour ce qu'on appelle la grande fête de commémoration du sacrifice d'Abraham, qui est fêté annuellement par les musulmans et qui coïncide avec le pèlerinage à la Mecque, chaque musulman fait lui-même ce sacrifice. Ça n'est pas un prêtre exerçant cette fonction sacerdotale qui vient égorger rituellement le mouton. Moi-même, par exemple, si je n'étais une nature extrêmement sensible qui ne tolère absolument pas de voir égorger une bête, je peux théologiquement faire moi-même le sacrifice, égorger moi-même le mouton, ce serait valable. Je prononce la formule rituelle et le sacrifice est bon. De même, chaque musulman peut dire la prière individuellement, sans qu'il y ait un prêtre quelconque ou un médiateur quelconque qui, en quelque sorte, transmet sa prière à Dieu, ou fait que la prière puisse circuler entre moi, fidèle, parmi les fidèles, et Dieu. On n'a pas besoin de cela. Ceci dit, il y a tout de même un certain nombre de fonctions à l'intérieur de la religion musulmane, un certain nombre de fonctions qui sont liées non pas à cette notion de sacerdoce qui médiatise la circulation du sacré, mais qui sont liées à une idée de compétence, et de compétence plutôt technique, intellectuelle. Par exemple, la fonction de mufti. Le mufti, c'est quelqu'un qui a une connaissance sérieuse, approfondie, de la loi religieuse et des conditions techniques, intellectuelles, d'élaboration de la loi religieuse, donc de l'exégèse, qui peut lire le texte coranique et réfléchir sur ce texte pour en tirer une conclusion pratique, pour donner des avis aux fidèles sur la conduite à tenir dans des cas nouveaux qui ne sont pas prévus par la loi, comme je l'ai dit tout à l'heure à propos de l'innovation. Voilà, c'est une fonction qui existe, mais qui réfère directement à la compétence. De même, lorsqu'on fait une prière en commun à la mosquée, il y a ce qu'on appelle un imam, c'est-à-dire quelqu'un qui dirige la prière des fidèles. Mais l'imam n'est pas supérieur aux autres. Ça n'est pas un véritable médiateur. Il est simplement quelqu'un qui, en quelque sorte, comme un chef d'orchestre, dirige le rituel. Et les fidèles le suivent. Mais les fidèles disent exactement tout ce que l'imam dit au cours de la prière. Et symboliquement, l'imam se met devant les rangées des fidèles qui sont derrière lui. Donc, la notion de sacerdoce, telle qu'elle est définie étymologiquement et telle qu'elle s'exerce dans la religion chrétienne, n'existe pas, mais il existe un certain nombre de fonctions qui sont liées à des compétences. Et il existe des fonctions qui sont liées aussi à cette notion d'autorité. C'est-à-dire que pour se prononcer sur une conduite religieuse, pour savoir si elle est orthodoxe ou pas orthodoxe, si elle est correcte ou pas correcte aux yeux de la loi, il faut s'adresser à quelqu'un de compétent qui a une autorité intellectuelle et par conséquent une autorité religieuse. Il y a une liaison ici entre l'autorité intellectuelle et l'autorité religieuse. Et c'est en ce sens que il est juste de dire qu'il n'y a pas de clergé en islam au sens où fonctionne le clergé dans le christianisme, surtout sur ce plan de la médiation dans le sacré, mais il existe des fonctionnaires qui sont, au sens sociologique de Weber, des gestionnaires du sacré, des gestionnaires du domaine religieux, des gestionnaires des biens religieux. Et ces fonctionnaires, on les appelle des ulamas, c'est-à-dire des docteurs. Et ces docteurs finissent par constituer un corps social, solidaire, qui détient des privilèges, forcément, et qui vont défendre ces privilèges. C'est ce qui s'est passé au cours de l'histoire. Les juristes théologiens ont été employés par l'État, et en retour des privilèges que leur donne ainsi l'État, avec un traitement, une position, etc., ils sont les intellectuels, entre guillemets, qui légitiment le pouvoir en place. Il y a un échange ainsi de services entre les autorités religieuses, mais il faut mettre autorité entre guillemets, et les autorités politiques. C'est donc dans ce sens-là que la liberté théorique de lire librement les textes pour chaque musulman est en fait supprimée par le fonctionnement de fait du pouvoir politique et de l'autorité intellectuelle qui est liée donc à l'intervention des textes sacrés et à l'intervention de tout ce qui a rapport à la tradition que l'on ne peut approcher que si l'on a cette compétence que je viens de définir. Alors aujourd'hui, il faut ajouter que justement, le problème du libre examen, tel que les protestants l'ont revendiqué face au magistère catholique omniprésent et omnipotent pendant le Moyen Âge. Ce problème de libre examen, malheureusement, n'est pas encore suffisamment perçu comme une nécessité à la fois intellectuelle et théologique à l'intérieur de l'islam. Parce qu'il n'y a pas suffisamment d'intellectuels au sens moderne du terme qui ont à la fois une compétence scientifique au sens de la compétence d'un chercheur en sciences humaines aujourd'hui et une connaissance également sérieuse des sciences religieuses traditionnelles pour pouvoir conjuguer ces deux compétences et créer un champ intellectuel nouveau. Cette chose n'existe pas encore. Il y a des individus isolés, et j'en suis un, qui essayent d'attirer l'attention sur la nécessité de faire ce travail. Et voilà pourquoi je cite souvent devant des auditoires musulmans l'exemple de Luther. Nous avons besoin d'une protestation au sens où Luther a introduit une protestation au cœur du magistère doctrinal catholique au XVIe siècle. Mais la protestation de Luther a réussi parce que les sociétés occidentales pouvaient soulever cette protestation, la prendre en charge socialement, culturellement et politiquement. Alors que les sociétés musulmanes d'aujourd'hui refuse de prendre en charge une telle protestation. Pourquoi? Parce que cette protestation et cet effort pour créer un champ intellectuel nouveau atteint en premier lieu l'État. Elle n'atteint pas le religieux.
Oui.
Donc, je disais que la revendication du libre examen des Écritures, justement des Écritures aujourd'hui, ne porte pas préjudice à la religion comme telle, parce que les textes sacrés, loin de défendre quoi que ce soit, au contraire, recommandent ce libre examen. Le Coran le recommande. Mais si je pratique ce libre examen en tant qu'intellectuel citoyen, j'atteins immédiatement l'État dans sa légitimité, dans la base dont il se sert pour légitimer sa présence et sa fonction d'État. Parce que les États, comme je l'ai dit tout à l'heure, en quête de légitimité, utilisent l'islam, et il faut donc bien surveiller ceux qui pourraient déstabiliser le sens des Écritures en introduisant une dimension critique qui éveillerait évidemment les consciences politiques et qui touche immédiatement la légitimité de l'État. Et voilà pourquoi c'est interdit pour des raisons politiques, mais pas pour des raisons religieuses. Ça aussi, c'est très important à comprendre de nos jours, parce qu'on attribue à l'islam la responsabilité de scléroser la critique et d'interdire la critique. Ça, c'est faux. Oui, alors ensuite, ça marche ou...
Oui.
Oui.
La question 9.
Oui. C'est donc c'est... Le pouvoir et l'autorité en islam.
Les... Ça, vous y avez répondu.
Oui, tel petit.
D'accord. Alors, question 9. Le pouvoir et l'autorité selon l'islam. Mais en fait, est-ce que vous n'avez pas déjà répondu?
Oui, j'ai déjà abordé la question.
D'accord. Donc,
du pouvoir et de l'autorité.
Voilà.
Il faut peut-être simplement insister sur la définition ici de termes techniques de droit public. Il y a la terminologie qui a rapport à l'autorité et au pouvoir. Il y a l'imam, le calife, le cadi, le sultan, l'émir. Voilà autant de mots qui ont trait à la définition de l'autorité et du pouvoir dans la tradition islamique. Alors, comme je l'ai dit, la distinction entre l'autorité et le pouvoir dans la pensée islamique est tout à fait cruciale. Elle est essentielle. Du point de vue du vocabulaire, le mot autorité se dit hukm. Hukm veut dire le jugement. Le jugement en tant qu'il émane d'un esprit responsable. Lorsque les musulmans se sont divisés en 661 sur la question justement du pouvoir et de l'autorité, dans cette grande querelle, al-fitnatul kubra, qui a été le grand schisme à l'intérieur des musulmans, les kharijites, qui est une des tendances qui se sont affirmées alors, ont eu une formule très caractéristique. Ils se sont battus au nom de la formule la hukma illa lillah, c'est-à-dire le jugement en matière du sens, en matière du droit, en matière de vérité, le jugement n'appartient qu'à Dieu. Seul Dieu peut trancher en matière de droit, en matière de signification, en matière de vérité. Ce qui désigne une instance du jugement, une instance de la vérité, et donc une instance de l'autorité. Et quand il disait « il n'y a de jugement que par Dieu », il renvoyait bien sûr au Coran, puisque le Coran est la parole de Dieu. Autrement dit, selon cette position, je ne peux prendre aucun jugement sur la réalité, sur le droit, sur quoi que ce soit, si je ne me réfère pas au Coran lui-même. Mais cette position, qui est une position à la fois idéale et pratique, puisque le Coran est là, c'est un texte que l'on peut lire et que l'on peut interpréter, etc. Cette position-là s'est trouvée évidemment en difficulté face à la réalité pratique du pouvoir. En effet, il y a eu un successeur du prophète au pouvoir, et ce successeur s'appelle le calife. Calife, du mot arabe khalifa, khalifa, c'est celui qui succède à. Le califat, c'est celui qui succède au prophète dans sa fonction de chef et, si possible aussi, dans sa fonction de guide spirituel et de guide religieux. Et c'est ici qu'il y a une divergence dans la terminologie elle-même, puisque le mot calife va être utilisé pour désigner ces chefs qui se sont portés au pouvoir par la force, comme je l'ai dit, les Omeyyades et les Abbasides, chez les sunnites, chez les musulmans orthodoxes, et l'imam, qui est un autre mot arabe qui veut dire celui qui se tient devant. Celui qui dirige la prière à la mosquée, c'est l'imam aussi, il se tient devant pour guider les fidèles. Eh bien, l'imam, c'est le mot qu'on choisit des chériques pour désigner le chef de la communauté musulmane, en insistant sur le côté charismatique, le côté spirituel de la fonction d'imam comme héritière du souffle prophétique, héritière du charisme prophétique, sans lequel, disent les chiites, il n'est pas possible de prononcer des hukm, c'est-à-dire de prononcer ce jugement au nom de Dieu et par la parole de Dieu. Vous voyez donc ici qu'il y a un débat extrêmement sérieux sur l'exercice de l'autorité articulée au pouvoir politique. Et ce débat se manifeste dans la terminologie elle-même. Le troisième terme qui est utilisé en matière de droit, dans la terminologie juridique, c'est le mot « sultan », qui a donné en français le « sultan ».« Sultan » en arabe veut dire « le pouvoir », mais jamais l'autorité. Vous voyez ? Et voilà pourquoi on emploie le mot sultan pour désigner les premiers califes omeyyades, parce qu'ils n'étaient pas reconnus par l'ensemble des musulmans comme des califes. Et on utilisera encore plus le mot sultan pour désigner les sultans ottomans à partir du XVIe siècle. Parce que les sultans ottomans, bien sûr, ils essayent de reprendre la tradition musulmane, mais ils sont quand même sentis comme extérieurs à l'islam. Et ils ne sont pas reconnus par l'ensemble de la communauté, en particulier, ils ne sont pas reconnus par les chefs. De même, au Maroc, le chef s'appelle Amir ul-Mu'minin, l'émir des croyants, mais il s'est appelé aussi Sultan, le sultan, c'est-à-dire celui qui exerce un pouvoir, parce qu'il y a eu des contestations sur la légitimité de certains sultans au Maroc au sujet de leur rapport justement au hukm, c'est-à-dire à l'instance de légitimation. Et puis il y a les émirs. Les émirs, émir veut dire, c'est de là que vient amiral, amir al-bahr, l'amiral. L'émir, c'est le chef d'un groupe plus restreint, dans une région politique plus restreinte, alors que le sultan a sous son autorité un empire, comme le calife. L'émir règne sur une région plus restreinte. C'est un chef local. Et alors, c'est un chef local considéré comme profane, et dont la légitimité, bien sûr, est généralement fragile, parce qu'elle ne s'élève jamais à ce niveau de débat qui existe pour le calife et pour l'imam. Mais vous voyez qu'à tous les niveaux, quel que soit le niveau considéré, le problème de la relation entre l'autorité et le pouvoir ressurgit constamment. Et il a ressurgi d'une manière spectaculaire, comme je l'ai dit, lorsque Khomeini a pris le pouvoir en Iran. Khomeini a pris le pouvoir au nom d'une restauration de l'autorité qui avait été interrompue par le pouvoir injuste, oppresseur, tyrannique du Shah. Voilà comment les choses se présentent. Évidemment, c'est très important, cette terminologie, parce qu'elle exerce immédiatement sur l'imaginaire social, donc la conscience collective, des effets immédiats. Et des effets qui entraînent des manifestations spectaculaires, comme on les a vues dans les rues de Téhéran, et comme on peut les voir encore dans beaucoup d'endroits, parce que dès que vous parlez d'un pouvoir politique, immédiatement, la conscience musulmane oppose l'instance de l'autorité. Où est-elle ? Où est l'instance de l'autorité qui soutiendrait le pouvoir de Bourguiba ? Où est l'instance de l'autorité qui soutient le pouvoir de Hafez al-Assad ou du roi d'Arabie, etc. Et c'est là le cœur du débat, et c'est dans ce jeu de va-et-vient entre l'autorité et le pouvoir à l'intérieur de la conscience, c'est là que se déclenchent les grands mouvements de protestation qui se traduisent par de violentes manifestations dans les rues et par des manifestations révolutionnaires, comme on en a vu et comme on en verra encore sûrement, parce que c'est un ressort puissant de l'imaginaire social. La recherche passionnée et inconditionnelle de l'instance de l'autorité, sans laquelle je ne peux obéir à un pouvoir établi, cette recherche-là est présente dans la sensibilité musulmane. On peut dire que c'est l'éthos religieux qui est à la base de tout pouvoir politique. Et cet éthos habite les générations actuelles, jeunes, et le fait que la démographie des sociétés musulmanes depuis les années 60 a fait que la population a plus que doublé en 20 ans, eh bien, à l'éthos religieux que je viens de définir, s'ajoute l'énergie biologique d'une population jeune. Il y a un effet multiplicateur de l'éthos religieux traditionnel par le fait que sociologiquement, cet éthos est porté politiquement aujourd'hui par une jeunesse de moins de 30 ans. 60% de la population ont moins de 30 ans. Et ce sont ces moins de 30 ans qui ont capté cet éthos de l'autorité, parce qu'ils sentent obscurément, sans pouvoir faire l'analyse que je fais, mais ils sentent obscurément que les pouvoirs politiques qui s'imposent par la force, la contrainte, le parti unique dans ces pays-là, n'a rien à voir avec l'instance de l'autorité. Voilà ce qu'il faut dire. Et vous voyez combien c'est important, à la fois pour le passé et pour le présent, sur les rapports entre l'instance de l'autorité et l'instance du pouvoir.
Est-ce qu'on peut poser sur la question sur l'autorité, sur la hiérarchie religieuse
Hiérarchie religieuse, où est-ce que ça
se fait ? Je l'ai oublié après le sacrement.
Oui.
On peut la poser quand même ?
Oui.
Donc, question numéro 10. Y a-t-il une hiérarchie religieuse ?
Alors, dans
général au temps de l'islam classique, le calife est censé être le chef suprême de la communauté musulmane. Il est le gardien de la loi religieuse. Il doit veiller à ce que la loi religieuse, qui elle-même est la traduction des enseignements de Dieu dans le Coran, soit intégralement appliquée. Et c'est le calife qui nomme tous les fonctionnaires de l'administration califale, comme le cadi, qui est le grand magistrat, qui a la haute main sur la justice. Le cadi est un personnage essentiel dans l'organisation des pouvoirs, et le cadi est nommé par le calife et dépend donc du calife, et il est, comme le calife, au service de la charia. Ensuite, il y a les autres fonctionnaires dont j'ai nommé le mufti par exemple et l'imam. Et autrefois, il y avait aussi un autre fonctionnaire important dont la fonction est à la fois civile et religieuse, c'est ce qu'on appelle le muhtasib, c'est-à-dire celui qui veille à la moralité générale dans les marchés, dans les transactions, dans la vie sociale, etc. Ceci, vous le voyez, reflète plutôt l'appareil de l'État, des fonctionnaires de l'État, et ils ne peuvent être rattachés à l'islam en tant que religion que du fait que tous ces fonctionnaires sont dans un régime qui est censé fonctionner pour sauvegarder la suprématie de la parole de Dieu, pour appliquer l'enseignement de Dieu dans les Écritures saintes et pour mettre en pratique, pour appliquer l'ensemble des dispositions du droit musulman tel qu'il est défini dans les corpus de droit. Et encore une fois, ce droit est conçu comme l'émanation rigoureuse, authentique de la volonté de Dieu et des enseignements de Dieu. Mais ce que je viens de dire est vrai pour la période califale, le calife classique, aussi bien chiite que sunnite. Ensuite, à partir du XIIIe siècle, en Iran, il y a la dynastie des Safavides qui instaure l'islam chiite comme religion officielle et qui instaure une hiérarchie un peu plus prononcée dans les fonctions religieuses. Et il s'est développé dans la religion chiite en Iran une hiérarchie plus prononcée que celle que nous pouvons trouver dans l'islam sunnite. Et c'est ainsi que nous avons ces termes qui sont devenus familiers depuis l'avènement de Khomeini, comme l'ayatollah, comme les moulas, qui correspondent à peu près aux curés, sans toutefois reproduire la fonction sacerdotale, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ce sont des personnages religieux qui ont une fonction religieuse d'autant plus prononcée qu'ils encadrent la population des fidèles selon des normes religieuses, parallèlement à ce que l'État, en tant que structure étatique séculière, a développé, en particulier depuis le début de ce siècle, et plus particulièrement encore depuis que le Shah Reza, qui a été chassé donc par Khomeini, depuis qu'il a accentué la sécularisation de l'appareil d'État en Iran, il a augmenté l'influence religieuse des moullahs et des ayatollahs, et c'est devenu une sorte d'opposition religieuse à l'appareil d'État sécularisé
fortement sécularisée telle que le Shah l'a développée. Donc il y a un phénomène récent de durcissement, si vous voulez, d'une fonction religieuse d'un côté et d'une fonction politique séculière de l'autre côté. Mais ça, c'est un phénomène qu'on peut localiser à la fois chronologiquement et politiquement. Mais d'une façon plus générale, les ulama, ce qu'on appelle les ulama, en dehors donc des fonctions que j'ai énumérées, les ulama sont censés être des autorités qui maintiennent la base intellectuelle et scientifique de la connaissance de la religion, de la connaissance de la loi. C'est par les ulama que se perpétue l'enseignement dans les universités et dans les médersas, et c'est par les ulama que se perpétue une information et un enseignement par les ouvrages qu'ils écrivent, et tout ceci est plus ou moins perçu comme une fonction religieuse, puisque ces sciences-là traitent toujours de la loi religieuse, de la théologie, de l'exégèse, c'est-à-dire de choses qui ont trait à cette tradition religieuse telle que je l'ai expliqué. Voilà pourquoi, jusqu'à nos jours, ce qu'on appelle les ulama sont perçus comme une partie du personnel religieux. Et à l'intérieur des ulama, il n'y a pas une hiérarchie telle que nous pouvons la trouver dans le clergé catholique. Simplement, on peut désigner des autorités plus respectées que d'autres, qui jouissent d'un respect et d'un renom plus grand que d'autres, mais ceci dépend justement de l'envergure intellectuelle de chacun et de l'œuvre de chacun, de la pertinence des positions d'enseignement développées par chacun, c'est-à-dire que c'est contrôlé pratiquement par l'opinion et non pas par une règle qui hiérarchise de façon rigide les compétences et les fonctions. Vous voyez donc que là-dessus, c'est beaucoup moins rigide que ce que nous pouvons trouver dans l'Église. Et si rigidité il y a, à certains moments de l'histoire, et particulièrement depuis les indépendances, à cause du phénomène nouveau de l'État, comme je l'ai dit, s'il y a rigidité, elle vient essentiellement de la volonté politique des États et non pas du fonctionnement interne, si vous voulez, des personnels religieux à l'intérieur de la tradition musulmane. Et je dirais, pour finir, que les États qui se sont formés depuis les indépendances ont nationalisé la religion comme ils ont nationalisé les biens économiques, c'est-à-dire que la religion et tous ceux qui gèrent la religion sont sous le contrôle strict de l'État, puisque dans les gouvernements, nous trouvons le gouvernement moderne, par exemple le gouvernement algérien qui vient de se constituer encore hier ou avant-hier, il y a un ministre des affaires religieuses. Un ministre des affaires religieuses, ça veut dire que toutes les affaires religieuses sont contrôlées par le gouvernement. C'est affaire du gouvernement, exactement comme autrefois avec le califat. Comme autrefois en Europe chrétienne. Avec cette différence, que dans l'islam classique, au temps du califat, le alim, c'est-à-dire le docteur, il avait le privilège de l'objection au calife. Il avait le privilège de critiquer éventuellement la conduite du calife. Ah oui. Et il avait le privilège aussi, que je signale, de refuser une fonction étatique que le calife lui propose. Un alim peut refuser d'être juge. Il peut refuser d'être un mufti. Il peut refuser d'être un professeur nommé dans une médersa officielle, en disant, moi, ma fonction n'est pas de transmettre un savoir orthodoxe constitué. Ma fonction est de maintenir la protestation au nom de la vérité de la parole de Dieu. Exactement. Donc le alim, le vrai alim, selon la tradition musulmane de la compétence du alim, de l'autorité, comme je l'ai défini, avait une liberté dont certains ont usé. Une liberté d'objection au pouvoir suprême, le calife. Aujourd'hui, pas possible.
Coupe de stock.
Oui, et bien maintenant on va s'arrêter parce que...